Voix Nue. Toute cette semaine, Emmanuel Laurentin rencontre Jacques Revel. Ce soir, l'école des hautes études en sciences sociales.
Jacques Revel, bonsoir.
Bonsoir.
Depuis lundi, nous cheminons avec vous à travers 50 ans de pratique de l'histoire. Normalien pendant les années 60, historien presque par hasard, c'est ce que vous nous avez dit, après avoir été tenté par l'égyptologie, historien quantitativiste au début des années 60. Vous avez pris en 1975 la direction de la prestigieuse revue Les Annales, qui avait été fondée en 1929 par Marc Bloch et Lucien Febvre. À ce titre, vous avez diagnostiqué dans un article fameux de 1979 la fragmentation et le délitement d'une histoire qui se voulait alors unie. Il faut dire que ces années 70 et 80 ont vu apparaître de nombreuses expérimentations historiques, comme la micro-histoire que vous avez contribué à faire connaître en France et dont nous parlerons dans l'épisode suivant de cette série. Dans cette émission, nous allons nous arrêter, Jacques Revel, sur un autre des aspects de votre parcours, celui de président d'une institution de recherche prestigieuse, l'École des hautes études en sciences sociales. Vous y avez succédé à distance à l'un de ceux avec lequel vous avez longtemps travaillé, François Furet. Que vous avait-il dit de ce rôle d'administrateur de la recherche? Et d'une certaine façon, puisque vous aviez été son adjoint pendant un certain temps, est-ce que vous aviez déjà été averti de ce qu'était justement le rôle de président d'une institution aussi prestigieuse?
Oui, j'ai appris auprès de Furet entre 1977 et 1985, la manière dont fonctionnait l'institution. À vrai dire, j'ai appris ce que c'était qu'une institution scientifique et à quel point c'était quelque chose de fragile à laquelle il fallait être attentif. Alors, Furet était un homme faiblement prescriptif, donc il ne m'a transmis aucun message, mais nous avons beaucoup travaillé ensemble, presque quotidiennement pendant des années, et j'ai appris un certain nombre de choses, et je me suis forgé auprès de lui un certain nombre de convictions, avec le sentiment d'ailleurs de lui devoir beaucoup.
Et de devoir aussi à une institution qui avait une histoire qui n'était pas encore très longue, mais qui était déjà apprécié pour sa variété dans le paysage de la recherche en France, c'est-à-dire pour sa différence par rapport à d'autres institutions plus anciennes et peut-être plus institutionnalisées, justement, Jacques Revel.
Oui, alors, l'école des hautes études, ce qui a été jusqu'en 1975 la sixième section de l'école pratique des hautes études, était une institution née dans les années qui ont suivi la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et une institution qui était largement dérogatoire. C'était une institution largement fictive, en ce sens que elle n'avait pas de locaux, pas de postes, et fort peu d'argent. Et malgré cela, elle s'est assez rapidement affirmée dans le paysage académique et peut-être davantage encore dans le paysage scientifique et intellectuel français et international. Ce qui est assez mystérieux. On y trouvait bien entendu des noms importants, Febvre, Braudel, le jeune Lévi-Strauss et Labrousse et quelques autres. Mais en même temps, tous ces gens ont saigné ailleurs. Et au fond, l'affiche des premières années de la sixième section, c'était un peu une auto-affirmation avec une faible existence institutionnelle. D'autre part, l'école pratique était dérogatoire du droit universitaire. D'une part, pendant longtemps, elle ne décernait pas de grade universitaire, mais un diplôme propre à ces institutions, qui avait une valeur moyenne sur le marché des emplois, mais une véritable reconnaissance scientifique. Et non seulement on ne demandait pas aux étudiants des titres préalables pour devenir étudiant à l'école pratique, mais on n'en demandait même pas aux enseignants. Donc on échappait en partie seulement au cursus universitaire régulier. L'école pouvait recruter peut-être pas des aventuriers, mais des gens qui étaient hors champ, hors cursus canonique. Et puis enfin, l'école enseignait ce qu'elle voulait. Et on va dire, chacun de ses enseignants enseignait ce qu'il voulait dans son domaine de spécialité. C'est-à-dire que l'école n'était pas tenue à une couverture encyclopédique des savoirs, comme c'est le cas d'université, et son devoir. À l'école, on trouvait des éléments de savoir, si possible, des éléments de pointe, mais en même temps de grandes lacunes, et personne ne s'en offensait. Alors tout ça donnait à ce dispositif une souplesse et peut-être une efficacité plus grande, plus manœuvrante que ça n'était le cas dans les universités.
Oui, et puis d'une certaine façon, qui a aussi fait qu'on savait qu'on était de l'école des hautes études par un certain type d'approche des problèmes, et en particulier des problèmes historiques. C'est-à-dire que on pouvait définir si tel ou tel chercheur, vous avez cité des noms, était plutôt à l'école des hautes études qu'à la Sorbonne, par exemple.
Oui, alors, ce problème des identités, il faut le prendre avec précaution. Oui, il y a eu un style de l'école des hautes études. Parmi les historiens de l'école des hautes études, c'est bien entendu les annales, puisqu'au fond l'école des hautes études c'était une traduction institutionnelle de ce qu'avait été le programme des annales développé depuis les années 30. Il y avait un style reconnaissable et que mes prédécesseurs aimaient à souligner, il y avait tout un lexique de la rupture, du programme, du nouveau sûr, qui pouvait d'ailleurs exaspérer ceux qui n'étaient pas du bon côté de la ligne, mais qui ont parfois tendu à renforcer des clivages au-delà de ce qui existait réellement. Donc il y a une part de construction dans ces identités institutionnelles. Il reste que l'école des hautes études pouvait développer des programmes, organiser des formes de travail et une formation à la recherche plus facilement que ce n'était le cas des universités, parce qu'il y avait moins de poids au sol.
Et on disait aussi, et on a longtemps dit, et on dit encore d'ailleurs, que l'école des études en sciences sociales était un temple de l'interdisciplinarité ou de la pluridisciplinarité ou de la transdisciplinarité. Est-ce qu'on peut dire cela tel que vous l'avez vécu en tant que chercheur, puis ensuite en tant que président de cette institution, Jacques Revel?
Oui, à condition de mettre immédiatement des bémols ou plus exactement de réfléchir sur la pratique. Comment on fait? Dès le départ, ont coexisté des historiens, des sociologues, des anthropologues, des linguistes, des géographes, etc. Des économistes. Alors, deux remarques à ce propos. L'histoire s'est retrouvée au centre du dispositif. Ça s'est vu dans les recrutements, et ça s'est vu aussi dans la manière dont l'institution se pensait elle-même. Deuxième observation, la manière dont les fondateurs ont pensé l'interdisciplinarité était optimiste. Au fond, elle reposait sur la conviction que toutes ces disciplines, toutes ces sciences qu'on appelait à l'époque sciences de l'homme plus volontiers que sciences sociales, avaient un objet commun qui était l'homme, précisément, l'homme social. Et que, d'une manière ou d'une autre, empiriquement, et certainement de façon asymptotique, elle finirait par trouver un régime commun de connaissances et donc par s'imbriquer les unes dans les autres. C'est une conception très particulière, ça n'était pas la seule.
Et puis il y avait aussi cette pratique de l'enquête, qui était une pratique très forte aussi, très ancrée dans cette école des hautes études, qui n'était peut-être pas répandue dans beaucoup d'autres endroits en France à la même époque, dans les années 60, 70 par exemple.
Oui, 80. Et même plus tôt, parce que la pratique de l'enquête suite, elle avait été déclinée sous diverses formes. Les Durkheimiens, l'époque de la première année sociologique, donc fin 19e, première année du 20e siècle, avaient développé des formes d'enquête ou de survey systématique. Les annales de Bloch et Fèvre avaient lancé des enquêtes collectives sans support institutionnel, mais à l'appel de la revue dans les années 30. La création du CNRS a bien entendu donné une dimension et un support plus grand à cette pratique de l'enquête, à une sorte de volontarisme scientifique. Au fond, les centres de recherche de l'École des hautes études se sont construits autour de ces projets d'enquête collective où on laissait de côté une part de son individualité, de ses projets personnels, pour contribuer à un projet élaboré, développé en commun.
Alors, parmi ces enquêtes, il y a évidemment la possibilité pour les chercheurs de travailler avec d'autres. Ce que vous pratiquez vous-même, parce que vous avez travaillé, par exemple, Jacques Revel, avec Michel de Certeau, avec Dominique Julia, pour les questions des politiques de la langue, par exemple, à la fin au moment de la Révolution française, autour de l'enquête sur les patois de l'abbé Grégoire. Et vous l'avez pratiqué à d'autres moments de votre propre carrière, toujours travailler avec d'autres et confronter son propre regard avec le regard des autres.
Oui, c'est une chose que j'ai beaucoup fait, mais que nous avons beaucoup fait. Alors, ça prenait des formes différentes. Lorsque nous avons travaillé avec Michel de Certeau et Dominique Julia, c'était, si je peux dire, une petite association amicale. On s'était rencontrés, on avait discuté, on s'était plu, et on a cherché sur quoi travailler ensemble.
Oui, c'est ça, c'était le goût de travailler ensemble,
voilà,
qui comptait.
Et ça, c'est un phénomène très propre à la fin des années 60 et aux années 70. On a vu germer un peu partout, comme ça, des groupes auto-recrutés qui se donnaient un projet. Ça aboutissait, ça n'aboutissait pas, bien ou mal, pour juger. Ça n'a plus grande importance. Les enquêtes développées à l'École des hautes études sont de nature différente. Il s'agissait de projets plus lourds, souvent fondés sur des entreprises de quantification, c'est-à-dire de traitement de données lourdes. C'est là qu'ont eu lieu les premiers recours à l'informatique, dès la fin des années 60, un âge préhistorique, bien entendu, et qui ont donné de grands résultats, je pense à la recherche de Furet et Ozouf sur l'alphabétisation des Français, à la recherche menée par Jacques Le Goff sur les ordres mendiants au Moyen-Âge, etc., etc. La dernière enquête que j'ai menée, à laquelle j'ai participé dans les années 1980, c'était une enquête sur les universités
avec Dominique Julia,
moderne, avec Dominique Julia et Roger Chartier. Au fond, c'était peut-être l'épuisement d'un modèle, d'un type de travail dans lequel la collaboration allait de soi. Ça, on peut penser, ce qui serait plutôt mon cas, qu'on a inventé d'autres formes moins lourdes, plus spontanées de collaboration.
Alors, par exemple, la collaboration que vous avez menée pendant longtemps avec Jean-Claude Passeron, est-ce que vous pouvez nous décrire, Jacques Revel, comment vous avez travaillé avec donc Jean-Claude Passeron, qui avait lui-même travaillé auparavant avec Pierre Bourdieu? Qu'est-ce qu'il y a eu de entre vous qui a fait que vous avez tenté et réussi de travailler ensemble pendant quelques années?
Oui, en quelques années, même encore aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui je parle souvent d'une manière ou d'une autre, par mail, par téléphone, ou quand nous nous rencontrons. Alors, je pourrais résumer les choses ainsi. Je connaissais Passeron, qui était mon collègue à l'école depuis pas mal d'années. Je suivais ce qu'il faisait, il suivait ce que je faisais, mais ça n'allait pas plus loin. Il a publié en 1991 un livre qui s'appelle « Le raisonnement sociologique », qui a, pour beaucoup d'entre nous, pour moi certainement, mais j'étais loin d'être isolé, été une réflexion de référence sur le type de connaissances que produisaient les sciences sociales sur les mots qu'elles utilisaient pour formuler ces connaissances. Et au fond, nous l'avons pris à plusieurs comme une sorte de charte fondatrice sur l'état des sciences sociales à la fin du XXe siècle. À partir de quoi, nous avons multiplié les confrontations, nous avons monté une petite revue à Marseille,
Enquête,
qui s'appelait Enquête, et qui, à la suite de divers avatars, est devenue une série de livres, une collection aux éditions de l'École des hautes études, qui essayait de se confronter à des problèmes le plus souvent pratiques, parfois plus théoriques, d'épistémologie des sciences sociales. C'est le moment où je me suis lié de la manière la plus proche à Passeron, à travers une réflexion sur ce que nous avons appelé « penser par cas », c'est-à-dire comment monter en généralité à partir de cas particuliers, à travers une réflexion sur les disciplines, sur la cumulativité des résultats que produisent les sciences sociales, etc. Donc ça a été un long compagnonnage ouvert, auquel se sont associés d'ailleurs des anthropologues comme Gérard Lanclude, des historiens comme Jean Boutier. Et c'est au fond la dernière des configurations intellectuelles dans laquelle je me suis senti chez moi.
Et vous étiez chez vous doublement, puisque c'était des gens qui travaillaient à l'École des hautes études, avec lesquels vous travailliez la plupart du temps dans ce type de travaux, Jacques Revel, et que vous alliez prendre la direction, la présidence de cette institution. Alors, je sais que vous n'aimez pas le terme de prendre la présidence, puisqu'on vous l'a confié, puisque c'est une particularité de cette École des hautes études que de faire élire son président par le collège des chercheurs qui y travaillent. Mais tout de même, il y avait à la fois le travail de chercheur que vous continuiez à mener en tant qu'historien, cette réflexion sur les disciplines et sur l'épistémologie des sciences sociales, et puis un travail d'administration de la science et de la discipline qui était un peu différent.
Oui, c'était des années un peu compliquées. La présidence de l'école m'est tombée dessus, mais je l'ai acceptée, donc je ne m'en suis pas plaint. Je l'ai exercée avec intérêt, même avec plaisir, et j'ai arrêté avec le même plaisir, au bout de 8 ans et demi. Bien entendu, elle m'a imposé des charges nouvelles, un peu d'administration, en tout cas suffisamment d'administration pour mon goût, et un travail de politique scientifique sur lequel nous reviendrons plus tard, si vous voulez. Elle m'a laissé moins de temps pour faire l'historien. Plus question d'aller aux archives pendant longtemps, etc. Et donc je me suis concentré sur ce que je pouvais faire dans le temps dont je disposais, qui était forcément contraint, c'est-à-dire plutôt une réflexion de type épistémologique sur ma pratique, et plus largement sur les sciences sociales. Alors, ça correspondait à ce qui m'était possible dans ces conditions. Ça correspondait, je l'espère, à mes intérêts intellectuels, et ça correspondait aussi à ce que la présidence d'une grande institution scientifique demandait, à savoir réfléchir sur les manières de la garder vivante, la mettre à jour, de réfléchir sur ses évolutions possibles. Et de ce point de vue-là, je pouvais essayer d'ajuster, tant bien que mal, ma réflexion privée ou dans de petits cercles à ce que pouvait être la politique scientifique de l'institution.
Oui, c'est une sorte de résolution des contradictions, d'une certaine façon.
Oui, c'est un beau nom pour une solution qui a été, bon, qui s'est imposée empiriquement, disons-le. Ça permet aussi de dire d'un mot ce que c'est que la politique scientifique d'une institution scientifique, ou plutôt de ce que c'était à l'époque où j'avais la charge de l'institution.
Au tournant du millénaire, entre 1995
et 2004, ouais. Oui. Bon, bien entendu, le président de l'école des hautes études et le petit groupe qui l'assiste quotidiennement dans sa tâche n'ont pas la science infuse, et donc ils doivent s'informer, ils doivent pouvoir discuter. La politique scientifique, c'est d'abord du dialogue avec des gens qui sont porteurs de propositions, avec des gens à qui on peut demander aide et secours à partir de leur propre expérience dans et hors de l'institution. Donc il y a tout un travail de tissage, de recherche d'informations, et puis de publicisation des débats. On fait circuler entre nous des textes, et après quoi, on essaye d'en tirer des conclusions sur ce qu'il était utile de développer ou ce qu'il était prioritaire de développer au sein de l'école.
Est-ce qu'il est difficile d'être dans une institution et d'en assumer l'histoire? Parce que j'imagine que à partir de 20 ou 30 ans d'existence, une histoire comme celle-ci commence à peser sur les épaules de ceux qui y rentrent et de ceux qui y sont depuis un certain temps. Est-ce que pour faire bouger les lignes, d'une certaine façon, ce qui est nécessaire quand on est président, c'est plus facile, plus difficile que de se jouer de cela?
Moi, je pense que c'est plus facile parce que ça nous enseigne deux choses. La première, c'est que l'institution n'a pas toujours été comme elle est au moment où on y est présent, où on en a la charge. Et qu'elle n'a pas été monolithique. L'un des risques qui menace les institutions scientifiques, surtout quand elles ont une bonne réputation, c'est qu'elles se figent dans un passé mythologique. Il y a eu une légende dorée de l'école des hautes études, il y a aussi eu une légende noire de l'école des hautes études. L'une et l'autre sont excessives. En revanche, il est bon de se rappeler que depuis sa création, l'école s'est transformée, qu'elle a réorienté ses projets, qu'elle a conçu de manière différente les relations entre les disciplines et la façon dont elles peuvent travailler ensemble, et que donc rien n'est figé, que c'est une histoire, et que ça continuera à être une histoire. Ça justifie, et c'est mon second point aussi, le fait que sur cette histoire, on peut essayer d'agir collectivement.
Oui, mais ça, c'est bien en interne. Mais ça doit être difficilement compréhensible dans une évolution du cadre de la recherche, qui est une évolution européenne, où la question de la rentabilité des recherches que l'on mène, et aussi peut-être une mise aux normes par les gouvernements successifs, rend plus difficile un exercice comme celui que vous venez nous décrire à l'école des hautes études en sciences sociales?
Oui et non. Enfin, d'abord parce qu'il y a toujours un décalage entre la manière dont une institution est perçue au dehors et ce qu'elle est réellement. Et de ce point de vue-là, le capital de prestige accumulé bien avant nous par la sixième section, puis par l'école des hautes études en sciences sociales, s'est prolongé durablement, et plus encore à l'étranger, peut-être qu'en France. J'ai beaucoup fréquenté les États-Unis, j'avais parfois le sentiment d'être à la tête d'une institution immense qui produisait des résultats innombrables. Alors, j'ai beaucoup d'admiration pour cette institution dans laquelle j'ai passé ma vie, mais il y avait un côté surdimensionné dans la perception qu'on en avait au dehors. Ensuite, la notion de rentabilité des produits qui sont ceux d'une institution de recherche, elle est très très difficile à définir en dehors d'un petit nombre de cas. Alors, une partie de la recherche, comme vous le savez, a été financée sur des contrats avec les ministères, des organismes publics et parfois des organismes privés. Personne, me semble-t-il, n'a jamais tenté de mesurer la rentabilité réelle de cette recherche. Et c'est tant mieux parce que la plupart d'entre nous sont convaincus que la recherche fondamentale est ce qui produit des résultats durables et non pas la recherche sur commande qui nous viendrait de tel ou tel organisme. Et puis, la mesure de l'innovation, elle aussi, est délicate. Il est rare qu'une proposition suffise à changer totalement le paysage de la recherche. Nos disciplines sont des disciplines d'évolution plus lente, qui procèdent par accumulation contradictoire, et dont on mesure les résultats dans un temps plus lent. Il y a donc une inadaptation des critères formels de l'évaluation, c'est-à-dire ceux à travers quoi on obtient de l'argent, on mobilise sur des projets, qui me paraît fondamental dans ces financements internationaux. Cela dit, ces financements européens ou autres prennent de plus en plus d'importance parce que ils se situent à des niveaux qui sont de très loin supérieurs à ce que peuvent faire les financements publics aujourd'hui.
Et donc, effectivement, il y a bien un changement du régime de la recherche, pourrait-on dire, entre le moment des années 70, 80, 90 et aujourd'hui.
Il y a un changement de certains aspects de la recherche. Si le budget d'un centre de recherche est de 300 000 euros par an, et qu'un chercheur revient de Bruxelles avec un budget personnel de 2,5 millions, ça introduit forcément un déséquilibre et ça pose des problèmes de convivialité.
C'est le moins qu'on puisse dire. Merci Jacques Revel. On vous retrouve demain pour le dernier volet de notre À Voix Nue avec vous, où nous allons justement parler de mondialisation de la recherche et de mondialisation de l'histoire en cours. Merci et à demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Emmanuel Laurentin avec Jacques Revel. À Voix Nue. Attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Raymond Albouy, réalisation Véronique Lamandour, coordination Belindola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.